encore sous les yeux ce matin. Tu m'appelles quand tu veux. Je suis là. D'accord? Tu peux compter sur moi. Pas de problème. De tels propos, on l'est toujours très prometteur lorsqu'on les entend, n'est-ce pas? Mais en connaissant les autres, en nous connaissant nous-mêmes, nous sommes un peu méfiants des déclarations unilatérales de la sorte. Il y a des relations bien brisées, même parmi nous, ici ce matin, et nous portons tous une responsabilité par rapport à ces relations brisées, souvent pour des raisons compliquées et diverses. Ce n'est pas pour rien donc que l'expression biblique est encore utilisée dans notre société. C'est au fruit que l'on juge l'arbre. Continue à nous parler, à peser. Le danger d'être un grand parleur, mais un petit faiseur, est réel. Nous savons ce que c'est cela. Nous comprenons cela. Et Paul, je pense, lorsqu'il écrit cet épître aux chrétiens dans la Galatie, il est conscient de cette vérité. Oui, dans la lettre jusque-là, nous l'avons vu, il a pris du temps pour insister sur le fait que ce n'est que l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. Pas une foi en Jésus-Christ, plus les œuvres de la loi de Moïse qu'il faut accomplir pour être sauvé. Non, la justification vient que uniquement grâce à la foi en Jésus-Christ seul. Et cela nous permet, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, d'être adoptés dans la famille de Dieu. On célèbre la Pentecôte, comme disait Samuel, parce que nous reconnaissons que nous dépendons de l'Esprit, de notre foi. Encore aujourd'hui, sans l'œuvre de l'Esprit, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas des croyants en Jésus-Christ. Mais cette œuvre de l'Esprit de Dieu ne nous laisse pas passifs dans la foi. Non, l'Esprit, nous l'avons entendu la semaine dernière avec Matthieu, dans Galates chapitre 5, nous libère de notre esclavage à la chair, à notre nature propre, nous libère de la condamnation qu'entraîne notre désobéissance à la loi de Dieu. Et donc, nous ne sommes plus sous la loi, nous avons compris cela, si nous sommes en Christ, mais comme nous voyons donc à partir de verset 13 du chapitre 5, donc ce qu'on a vu la semaine dernière, si Dieu nous a appelés à la liberté, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour la chair. Non, Christ nous a libérés dans un but afin de servir. Au contraire, chapitre 5, verset 13, continue par un mot, vous qui êtes libres, faites-vous plutôt esclaves. Mais dans quel sens alors? Parce qu'on vient d'être libérés, mais il dit faites-vous esclaves les uns aux autres. Et juste donc avant notre texte, que nous avons commencé avec cette partie ce matin, donc 5, verset 25, si nous vivons par l'Esprit, que dit-il? Laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. L'évangile de Jésus-Christ que nous confessons dans notre Église, merci Seigneur, que j'espère que vous connaissez cet évangile qui nous libère, que vous croyez cet évangile. Si ce n'est pas encore le cas, vous êtes les bienvenus parmi nous. Mais nous aurons de la joie de vous aider à comprendre quelle est la bonne nouvelle qui justifie, qui sauve, qui donne de l'espoir. Il faut commencer là. Mais cet évangile de Jésus-Christ ne nous laisse pas indifférents à propos de la mise en pratique de cette foi que nous avons de façon très concrète dans nos vies. Non, loin de là, l'Esprit de Dieu qui nous a fait adopter dans la famille de Dieu nous pousse à refléter les priorités de notre nouvelle famille. Être membre d'une famille sans être influencé par la culture de la famille est un indice qu'on n'appartient pas ultimement à la famille. Donc, lorsqu'on adopte la culture de la famille dans laquelle on se trouve, cela fait signe que nous sommes membres, effectivement, de la famille. Alors, laissons-nous conduire, nous dit l'apôtre Paul, par l'Esprit dans nos vies de tous les jours. Ce n'est pas optionnel, cela. Ce n'est pas un plus. Oui, nous ne faisons pas cela afin d'être justifiés, mais parce que nous sommes justifiés. Adopté dans la famille de Dieu. Et c'est ainsi, le dit-il à la fin du verset 2 de notre texte du chapitre 6, que vous accomplissez la loi de Christ. Paul a déjà dit au chapitre 5, verset 18, que nous ne sommes pas sous la loi. Donc la loi de Christ ne doit pas être par conséquent comprise comme étant la loi de Moïse qui reste en vigueur après tout par l'accomplissement de cette loi qu'il y a en Jésus-Christ, qui démontre l'étendue de la loi de Moïse. Non, je pense que cette loi de Christ est une loi distincte pour les croyants en Christ. Mais oui, la loi de Christ donne l'expression concrète, complète, de ce que la loi de Moïse anticipait de l'amour pour Dieu et de l'amour pour notre prochain. Mais la loi donc de Christ désigne un ensemble de principes prescriptifs, oui, qui sont issus du cœur de l'évangile de Christ, qui sont généralement incarnés d'ailleurs dans l'exemple et dans l'enseignement de Jésus lui-même. Et ces principes qui s'y trouvent sont destinés à être appliqués dans des situations bien spécifiques par l'impulsion et la puissance de l'Esprit-Saint dans les croyants en Christ. Ce sont l'expression, l'obéissance à Christ, l'expression concrète du fruit de l'Esprit à l'œuvre dans le croyant, le fruit dont on a entendu parler la semaine dernière. Et donc, dans le texte que nous avons ici, le chapitre 6, Paul nous aide à comprendre que vivre par l'Esprit, ou donc accomplir la loi de Christ, ce que cela implique pour de vrai. Et il nous donne trois pistes qui servent comme une ligne directrice, je dirais, pour la pratique de tous les jours de notre foi. De quoi s'agit-il? Alors, premier point, vous voyez sur le plan, se sentir concerné par les péchés et les fardeaux des autres. Le verset 1 envisage une situation lorsque quelqu'un, probablement un frère ou une sœur en Christ, est surpris en faute. Comment il est surpris en faute n'est pas explicité dans le texte. Mais cela arrive encore aujourd'hui. Quelqu'un découvre quelqu'un qui est surpris en faute, ou la personne elle-même avoue d'avoir échoué dans un domaine ou un autre, de ne pas avoir agi pour la gloire de Dieu dans l'un ou l'autre domaine de sa vie. Et Paul est très réaliste dès le début ici, n'est-ce pas? Cela arrive encore que le chrétien trébuche. Ce n'est pas parce que nous vivons par l'Esprit de Dieu que nous ne sommes pas en mesure de résister à être conduits par ce même Esprit. Non, parfois résister l'Esprit, c'est possible pour le croyant. Et que devons-nous faire à ce moment-là, lorsque nous voyons cela chez quelqu'un d'autre? Alors d'abord, peut-être nous pouvons dire que je mets tout de suite de la distance par rapport à moi et cette personne pécheresse. Et ainsi, je me crois supérieur à cette personne-là en les condamnant pour une telle situation qu'ils vivent. Deuxième possibilité, c'est de simplement excuser la personne, car on dirait que personne n'est parfait. Et je ne veux pas le dégât relationnel qu'il peut y avoir si moi j'essaie de me mêler dans les affaires de l'autre, d'aider l'autre à faire autrement. Ça va être coûteux parce que ça va soulever des difficultés dans notre relation. Mais Paul fait ni la première option ni la deuxième option. Il recommande ceci, redressez-le, il dit, dans un esprit de douceur. Ni la condamnation tout court, ni le laxisme, mais plutôt l'amour. Un amour pour Dieu qui est saint, qui est contre certains comportements, certains actes, certaines attitudes. La loi de Christ est contre certaines choses, oui, mais aussi un amour pour la personne elle-même. Car au lieu de vouloir condamner la personne, on se soucie suffisamment de l'autre que nous sommes prêts à lui parler de sa faute. Alors ici, il faut faire attention parce que c'est vrai que selon la Bible, l'amour couvre une multitude de péchés au lieu d'exposer une multitude de péchés. Donc lorsqu'il s'agit de petites offenses au sein de notre Église ou dans votre vie auprès de d'autres frères et sœurs, surtout des offenses en ce qui nous concerne personnellement, nous devons être prêts à simplement supporter l'autre. Quelqu'un qui oublie de me saluer le dimanche matin de manière systématique. Quelqu'un qui part de façon plus abrupte que j'aurais aimé. Quelqu'un qui a oublié de faire quelque chose au moment qu'il avait dit qu'il allait le faire. Plein d'exemples comme ça. Là, on doit le supporter parce que ce n'est pas aussi grave. Mais là où la faute est plus conséquente, là où la personne a adopté une certaine habitude qui n'est ni saine ni constructive pour pouvoir se battre à ce péché lui-même, à ce moment-là, c'est important de me sentir concerné par rapport à la circonstance de cette personne. De ne pas être concerné signifie quoi? Signifie un manque d'amour. Que je m'en fiche si l'autre tombe ultimement en dehors du royaume de Dieu. Paul dit quoi? Vu qu'il est spirituel, alors c'est-à-dire vu qu'il appartenait donc à l'Esprit de Dieu, vu qu'ils font votre mieux pour marcher selon l'Esprit, qu'ils font preuve donc du fruit de l'Esprit. Donc Paul ne fait pas ici une catégorisation d'un côté des chrétiens spirituels et de l'autre côté des chrétiens charnels. Non, chaque chrétien est en principe un chrétien spirituel qui appartient à l'Esprit. Et spirituel, mais parfois pendant un moment, une personne chute. Et cette personne a besoin des autres chrétiens donc spirituels, pour les aider. Oui, dit-il, vu qu'il est spirituel, redressez-le. C'est nécessaire de redresser, mais comment doivent-ils le faire? Dans un esprit de douceur. Car un chrétien mûr comprendra qu'il est également susceptible. D'ici la nouvelle création, il est susceptible aussi de tomber, trébucher. Au lieu donc de parler de la perspective de quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est la faiblesse humaine, non, le chrétien qui aide l'autre est quelqu'un qui parle comme un autre pèlerin, qui comprend de l'intérieur ce que c'est d'avoir cette même faiblesse. Fais cela, hein, au lieu simplement de glisser un mot sec et dur qui tue, si tu veux, l'autre. Ben, ça aide une telle personne à reconnaître que toi, tu cherches son bien et qu'il ne sera pas exposé à la honte s'il a vu son péché et s'il soit donc rétabli. Alors, par exemple, vous voyez quelqu'un qui est devenu trop laxiste avec ses enfants. Parfois, ça arrive. On a fait preuve de cet exemple nous-mêmes ce dernier temps. Quelqu'un nous a trouvé, pas par rapport aux enfants de cette église, rassurez-vous. Quelqu'un était troublé que la personne ne faisait pas le nécessaire pour redresser les enfants. Et ça est devenu problématique, même publiquement problématique. Mais si on s'approche de la personne et nous disons « Que faites-vous avec vos enfants ?» c'est quand même insupportable comment vos enfants se comportent. Jamais de la vie, est-ce que moi je permettrais cela, tu sais? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La personne est mise de côté. Personne n'a pas la possibilité de l'avouer et de vouloir faire le nécessaire pour changer sa situation. Si plutôt nous disons, tu sais, je suis un peu hésitant à soulever ceci, mon frère ou ma sœur, mais je suis soucieux de voir comment les enfants se comportent actuellement. Je sais que tu as du mal pour différentes raisons, différentes circonstances. Donc, je veux t'aider à comprendre comment tu peux te comporter dans ce domaine. Alors oui, c'est dur de l'entendre. Et de nouveau, dans l'exemple que je vous ai cité, c'était pas facile de dire cela. Mais si nous ne redressons pas, ça fait preuve d'un manque d'amour. Mais quelqu'un qui fait preuve d'un comportement douteux par rapport, alors pour un autre exemple, par rapport à un homme ou une femme qui n'est pas son époux ou son épouse, de ne rien dire, ça fait preuve d'un manque d'amour. Quelqu'un qui est trop agressif dans ses propos auprès de ses frères et ça, de ne rien dire, ça fait preuve d'un manque d'amour. Quelqu'un qui est systématiquement en retard pour honorer ses engagements, qui met systématiquement les autres toujours autour de lui et de son timing, ça fait preuve d'un manque d'amour de ne rien dire. Quelqu'un qui fait preuve d'une dépendance malsaine pour une raison ou une autre, et par conséquent, il y a du dégât dans sa famille ou dans son job. Même dans son église. Ne rien dire, ça fait preuve d'un manque d'amour. Mais nous devons dire quelque chose, mais dans un esprit de douceur. Sommes-nous suffisamment concernés lorsque nous voyons de telles choses? Si nous sommes concernés, non seulement cela se verra lorsqu'il est question des fautes des autres, mais également cela se verra lorsqu'il est question des fardeaux des autres. Car verset 2, que dit Paul ensuite, porter les fardeaux les uns des autres. Bien sûr, il faut faire cela, car nous avons déjà vu, chapitre 5, verset 6, la foi est agissante, comment? Par l'amour. Donc maintenant, imaginons pour un moment un père de famille qui, lorsque sa femme rentre après son boulot et lui dit qu'elle a perdu son travail, il répond ainsi. « Bon, pas de chance, chérie. Mais mange vite si tu veux bien, parce que le match, ça commence dans 30 minutes. Okay? » Lorsque l'un de ses enfants lui dit qu'il a du mal à comprendre des formules en maths qu'il doit apprendre par cœur pour une interro d'ici la semaine prochaine, « Eh ben, il vaut mieux travailler, mon gars. Hein? » Un père qui, lorsqu'il apprend que son père, à lui, a eu un accident et est hospitalisé pendant 2 semaines, ne fait aucune démarche pour le rendre visite. Qu'est-ce qu'on dirait d'un tel homme? Qu'il est égoïste, non? Ce qui définit la famille, ce sont des relations où chacun est prêt à se sacrifier pour l'autre, à un coup à lui-même. Et cela doit par conséquent, caractériser la famille de Dieu. Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 17, portait, c'est le même mot employé ici, sa croix afin de prendre sur lui la malédiction de la loi qui aurait dû tomber plutôt sur nous. Et son amour sacrificiel devient un modèle pour nous, de nous soucier de nos frères et de nos sœurs, de porter les fardeaux des uns des autres. Si l'Église de Jésus-Christ, ce n'est rien que moi et Dieu, peu importe vous. Alors bien sûr, cela signifie que je quitterai l'église le plus vite possible que le culte termine le dimanche. Comme ça, je parle à moins de personnes. Et comme ça, je ne suis pas embêté par vos problèmes. Okay? Bien sûr, si l'église, ce n'est que toi et Dieu, alors j'éviterai un contact trop régulier, trop proche avec des personnes ici rassemblées. Car cela commencera à créer des obligations si je me mêle un peu trop. Des responsabilités, cela demandera de mon temps, de mon énergie. Ici, Paul ne vise pas une église où chaque aspect de notre vie est réglementé par l'église. Bien sûr que non. Ce serait encore d'imposer des règles, des lois, qui en quelque sorte doivent contribuer à notre salut. Ce n'est pas ça ce qu'il vise. Non, mais loin de lui d'approuver une église là où son peuple s'en fiche de l'autre. Ce qu'il envisage, c'est une série de relations organiques de par les circonstances et les situations variées qui s'y trouvent, où chacun se sent concerné par les autres, chacun dans la liberté qu'ils ont en Christ, par amour, se fait des esclaves les uns des autres. Parfois, ce serait par la prière. Pas plus que cela, car le combat spirituel est réel et rude. Et il faut prier les uns pour les autres. Parfois, ce serait en donnant de notre temps, un coup de fil, une visite, une aide pratique, un conseil, une écoute attentive pour comprendre la situation de l'autre. Parfois, ça demanderait de notre énergie, de notre argent même. Et à l'instar de Christ, ce serait un coup donc à nous-mêmes. Après tout, c'est l'Esprit de Christ qui s'est donné pour nous, qui vit en nous. Donc au verset 1, Paul ajoute à la fin du verset un avertissement. Et je me sers de cet avertissement pour aborder avec vous la deuxième piste que Paul donne pour un chrétien qui vit par l'Esprit. Au verset 1, il dit ceci, « Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. » Alors, nous devons maintenir un regard juste sur soi-même. Mais il y a trois moyens de comprendre cet avertissement à la fin du verset 1. Je me demande comment vous avez compris cela lorsque cela a été lu. De peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Mais dans quel sens je sois tenté? Alors, peut-être d'abord, nous serons tentés d'exprimer notre colère, notre frustration, notre chagrin à la personne qui est surpris en faute. Oh, pas encore! Mais tu exagères! Ou ce genre de choses. Et deuxièmement, nous serons peut-être tentés de tomber nous-mêmes dans le même péché qu'eux, ils sont en train de commettre. Le fait d'avoir une certaine proximité à la personne et à ses actions nous entraîne dans ce qu'il fait. Et cela peut donc mener au même comportement même. Mais si je dois trancher, je pense que je préfère la troisième possibilité. Nous serons tentés de se croire supérieurs à celui qui tombe et d'ainsi grandir dans notre estime de nous-mêmes. Cela semble bien cadré, cela avec le contexte avant le verset et après le verset. Avant, car verset 26 du chapitre 5, Paul a déjà soulevé le problème d'orgueil. Ne soyons pas vaniteux en portant envie les uns aux autres. C'est un problème. Faire ce jeu de comparaison avec quelqu'un. Soit je suis supérieur, soit je me estime être beaucoup inférieur. Mais le problème reste le même. Je suis en train de porter envie les uns aux autres. Et le verset 3 de notre texte continue dans ce même sens. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. C'est ça le danger. Face à un péché de quelqu'un d'autre, on s'imagine un peu en dehors du danger, supérieur à cette personne-là. Jamais, moi, je ferais cela. T'as entendu ça? Ce qu'il fait? Oh là là! Mais c'est faux, si nous pensons ainsi. En 1963, il y avait une femme philosophe, Hannah Arendt, qui a publié un livre très connu, Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Elle a suivi de près le procès d'Adolf Eichmann, l'architecte en grande partie de la solution finale, l'organisation donc de déportation des Juifs vers des camps de concentration et leur extermination. Et ce qui sort du livre de Hannah Arendt, c'est que le mal est généralement perçu par nous comme sophistiqué et exceptionnel. Parce qu'on ne va pas croire que nous sommes capables, nous, de commettre ce mal. Mais elle dit, en réalité, le mal est banal. Et ce qui est terrifiant à propos d'Eichmann et de ses exemples extrêmes comme lui, c'est le soupçon lancinant que ces gens ignobles, n'étaient pas, pour finir, aussi différents de nous qu'on imagine à bien des égards. Ça, c'est ce que c'est être humain, être déchu, être quelqu'un taché par le péché. Donc, lorsque Paul dit ici que nous ne sommes rien, cela ne nie pas la dignité, bien sûr, de chaque homme, chaque femme créée à l'image de Dieu. Nous avons, nous portons cette image. Il y a une dignité, il faut respecter cela. Mais nous ne sommes pas moralement supérieurs aux autres. Non, nous sommes tous, si nous sommes en Jésus-Christ, des mendiants qui ont trouvé du pain. Et donc, il continue verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Oui, devant Dieu, nous sommes responsables pour nos propres actions. Et cela donc ne contredit pas le verset 2, que nous devons porter l'effort des autres. Non, nous ne devons pas juger ceux auprès de qui nous exerçons notre ministère d'amour, de porter les fardeaux des autres, en imaginant que nous sommes donc supérieurs à ces autres. Car mes circonstances, bien sûr, ne sont pas les mêmes que celles de mon voisin. Chacun porte sa propre responsabilité. Nous devons nous arrêter donc de nous comparer aux autres, qu'ils soient peut nous gonfler d'orgueil lorsque nous faisons cela, soit peut nous décourager si je vois à quel point quelqu'un d'autre, avec son énergie à lui, avec ses talents, ses dons, il fait mieux que moi. Non, nous devons nous mesurer contre nous-mêmes, là. Pas par rapport à quelqu'un d'autre. Dans ce sens-là, il y a moyen, de façon sobre et réfléchie, d'être fier, non pas confiant en nous-mêmes devant Dieu pour mon salut, mais sachant que oui, je suis responsable devant Dieu et je comprends l'importance de l'œuvre de l'Esprit en moi. Donc, deuxième piste qui nous a donné, maintenir un regard juste sur soi-même. Et la troisième piste est mentionnée explicitement dans les deux derniers versets. Pratiquer le bien autour de soi. Pratiquer le bien autour de soi. Verset 9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, verset 10, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Donc Paul précise deux groupes auprès de qui nous devons pratiquer le bien. D'abord envers tous et ensuite envers ceux de votre église locale. Le rassemblement de chrétiens que vous connaissez d'un point de vue local. Et nous verrons que le deuxième groupe est une expression concrète de notre obligation envers le premier groupe, envers tous. Donc d'abord envers tous. Paul, au chapitre 5, a déjà donné la règle, verset 14 du chapitre 5, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain signifie en principe tout le monde, mais surtout ceux envers qui nous avons un contact. Le verset 10 nous dit « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. » Cela signifie qu'il y a une responsabilité, surtout envers ceux qui croisent notre chemin en nous, que cela soit au travail, lors de mes études, lors de mes loisirs, mes activités à la maison, au sein de la famille, lors de mes engagements en tant que bénévole, ici ou là. Peu importe, ne négligeons pas de faire le bien. C'est ce principe-là qui a mené le CK20 à être actif dans le domaine de la santé. Parce que dans la situation dans laquelle il s'est trouvé, il voyait le besoin que l'État ne pourvoyait pas des hôpitaux, des centres médicaux et ainsi de suite. Donc l'Église a pourvu à ce besoin par amour pour le prochain, par un désir de faire le bien. Donc, au lieu de parler comme des grands rêveurs pour refaire le monde, peut-être vous aimez faire cela de temps à autre, le dimanche après-midi, dans votre jardin, il fait beau, vous voyez dans les actualités que tout tourne à mal. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de refaire le monde. Et c'est beau lorsqu'on parle, n'est-ce pas? Mais au lieu de parler comme ça, au lieu de proclamer un amour pour l'humanité entière, tout en restant assis, Paul nous exhorte à ne pas négliger de faire des choses précises, concrètes, par amour. Cela nous donne un mot d'ordre au sujet, il me semble, donc de mon employeur. J'aimerais revenir un peu là-dessus d'ici 15 jours pour prendre un peu plus de temps de cogiter cela. Mais un mot d'ordre aussi pour, par rapport à mon voisin, par rapport à ma famille qui n'est pas dans la foi chrétienne, par rapport à mon conjoint, par rapport à mes enfants. Cela signifie une attitude qui ne cherche pas conséquent le bien de l'autre. C'est souvent dans un tel contexte où il est difficile justement de mettre en pratique ce commandement. Car rendre le bien pour le mal n'est pas facile pour multiples raisons, nous le savons. M'efforcer à penser le bien d'une telle ou d'une telle personne n'est pas évident quand une telle personne m'a blessé. Telle personne s'est avancée de manière injuste plus vite que moi. Ce n'est pas facile de me discipliner pour ne pas présupposer le pire à propos des autres. Mais l'une des raisons pour lesquelles nous trouvons cela difficile est tout simple. C'est que je ne cherche pas le bien de telle personne. Pour nous, ces personnes-là, nous disons plutôt ceci, que chacun s'occupe de ses oignons, le reste n'est pas mon affaire. Ce n'est pas chrétien, une telle attitude. J'ai entendu parler cette semaine d'un couple chrétien que mon épouse et moi nous connaissons, qui sont entretenus des relations toutes simples ces deux dernières années, je pense, avec le voisin, direct dans l'immeuble de l'appartement là où ils habitent. En face, il y a une porte et d'autres voisins. Souvent, on ne sait même pas qui habite en face, n'est-ce pas? Mais au lieu d'avoir juste une simple courtoisie dans la relation, où on cherche à fermer la porte le plus vite possible, ce couple a posé l'une ou l'autre question simple, amical à ce couple et de fil en aiguille faisait qu'ils partageaient un verre d'amitié ensemble dans l'appart de l'un ou de l'autre. Et cela permettait à ce couple de comprendre que l'autre couple aurait besoin de l'aide pour préparer un entretien d'embauche. Et donc, ensuite, ils viennent d'être invités chez eux, ils ont mangé ensemble et ainsi de suite. Et ils viennent, après 2 ans de relation, d'être invités au mariage de ces mêmes voisins. C'est beau cela, n'est-ce pas? Mais ça commence comment? En cherchant tout simplement le bien de l'autre. On peut donc se demander, suis-je toujours moi en train de vouloir le bien de l'autre, de chercher le bien de l'autre dans ce que je fais? Ou est-ce que tout tourne toujours autour de moi, autour de mes circonstances, autour de mes envies? Le Seigneur, chers amis, nous appelle à avoir tout simplement un amour pour notre prochain, ce qui signifie de chercher son bien. Et un endroit qui démontre si cela est en train de se faire, si vous vous posez la question, c'est là où vous vous trouvez actuellement, ici, à l'Église. Donc, deuxièmement, on va se de votre église locale. En particulier, il dit envers nos proches dans la foi. Alors le sens ici, c'est pas bon, s'il faut choisir entre le non-chrétien, le païen, et le chrétien, l'homme juste, pour faire du bien, alors il faut trancher pour le chrétien. Non, c'est pas ça ce qu'il veut dire. C'est dans la continuité de faire le bien à tous qu'il dit aussi de faire le bien envers d'autres croyants. C'est auprès de ces croyants que vous passez déjà un pourcentage de votre temps. Vous y êtes, vous passez déjà du temps avec des croyants. Sans doute là, dans l'Église, vous aurez donc des occasions déjà de pratiquer le bien. Et c'est là donc où il faut commencer, chers frères et sœurs. Et cela signifie bien sûr qu'il faut y être de manière régulière. Le meilleur moyen de ne pas devoir se soucier des autres, c'est de garder une bonne distance des autres. C'est de ne pas venir régulièrement, c'est pas de venir ponctuellement. C'est de lancer un « ça va » d'ici et là sans crainte que quelqu'un s'ouvre à moi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne me connaissent pas. Faire du bien dans le contexte de l'Église engage ma présence, mais aussi mes paroles et également mon portefeuille. Verset 6, je pense, va dans ce sens-là. C'est pour ça que ça se trouve parmi les autres commandements, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est un principe basique au sein de l'Église locale de contribuer aux besoins de l'Église pour l'enseignement de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, chers amis, la loi de Christ prévoit des églises saines, des églises où nous nous soucions l'un pour l'autre. Des églises où nous ne sommes pas en train de nous comparer les uns aux autres avec un regard hautain sur les autres. Des églises aussi tournées vers celles de l'extérieur où des croyants sont reconnus comme étant actifs et persévérants en faisant le bien autour d'eux. Des églises où il y a une reconnaissance de l'importance de l'enseignement de l'Évangile de Jésus-Christ au sein de l'Église. Et une église où il y a du sérieux à propos de mon besoin de jouer mon rôle au sein de ce peuple. Et cela nous mène donc à notre conclusion. Qui dit semer, dit récolter. Comment semons-nous alors? Verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Aussi. Vous savez, il y a moyen parfois de faire le bien de façon visible, de façon à ce que mon employeur soit un peu impressionné, de façon juste ponctuelle, qui attire l'attention de nouveau vers moi, parce que pendant un instant, les caméras sont sur moi. Mais en dehors de cela, quand il ne regarde pas, quand il n'est pas là, je me comporte différemment. Et ça ne marche pas ça avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu voit tout. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récoltera. C'est aussi simple que ça. Et donc, même si ce verset suit le verset 6 par rapport à l'argent, je pense que ce principe s'applique à beaucoup plus que l'argent. Il revient à son thème majeur ici, de cette pratique de la loi de Christ, de vivre par l'esprit au lieu de vivre sous la loi et selon la chair. Verset 8, celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Semer, donc c'est indispensable. Nous comporter de ces trois façons, c'est indispensable. Pas pour mériter du coup l'approbation de Dieu, mais comme indice nécessaire que l'esprit de Dieu vit en nous. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous semons afin de voir le fruit de Dieu. C'est ça ce qu'il dit ici dans ce verset. Celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Augustin disait, Dieu ordonne ce qu'il donne. Il ordonne certaines choses, mais par son esprit, il nous donne les moyens de pratiquer ce qu'il ordonne. Et donc, chers amis, nous sommes invités de nouveau à réfléchir sur ce que nous semons. Parce que ce que nous semons va dicter ce que nous récoltons. Et donc, est-ce que nous faisons preuve de quelqu'un qui se sent concerné par les péchés et les fardeaux des autres? Est-ce que nous maintenons un regard juste sur nous-mêmes? Et est-ce que nous sommes en train de pratiquer le bien autour de nous, envers tous et envers ceux de notre église locale? Nous allons terminer là maintenant, chers amis, avec un chant. Je vais essayer de donner quelques indications par rapport à ce chant. Et reprenons donc le livret avec des chants. Par tous les saints glorifiés. C'est l'un de mes chants préférés, mais c'est un chant qu'on chante mal. Parce qu'il y a deux parts. Il y a une part féminine, ou un part féminin, il y a une part masculine. Mais pourquoi j'insiste qu'on va quand même, à un moment donné, maîtriser ce chant? La quatrième strophe nous dit ceci. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul demeure. Nous sommes appelés à cet amour. Dieu nous a aimés en Christ. C'est ça l'évangile. Alors le fruit de cet évangile, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce que nous venons de voir. Et donc nous voulons chanter gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Alors cinquième strophe nous dit quoi? Pour nous, il fut crucifié. Son sang a racheté notre âme. Amen, ça c'est l'évangile. Et ensuite, qu'est-ce qu'on dit? C'est pourquoi notre amour l'acclame. Ce n'est pas juste qu'on chante. De nouveau, ce serait des belles paroles si on chante. Et puis, tout de suite après, on est en train de critiquer l'autre, en train de rouspéter par rapport à ce que l'autre a fait, et ainsi de suite. Non, c'est pourquoi notre amour l'acclame. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Alors avant de chanter, je vais prier, parce qu'après je vais essayer de donner quelques indices sur comment nous devons chanter. Mais ça, c'est vraiment pas super important, ultimement, même si j'ai envie que ça soit bien fait. Ce qui est important, c'est comment est-ce que nous vivons cette semaine? Comment est-ce que nous allons mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit? Donc prions, si vous voulez bien, ensemble. Seigneur, tu nous as parlé dans ta parole, tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions nous laisser conduire par ton esprit. Et donc nous te prions que nous soyons une église où le fait de redresser quelqu'un se fait, mais se fait toujours dans un esprit de douceur. Là, une église où nous sommes en train de porter les fardeaux les uns les autres. Là où nous sommes en train de nous comporter avec une humilité devant toi. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes aussi graciés en Jésus-Christ que mon frère, que ma sœur. Et nous sommes, Seigneur, conscients du besoin de continuer à chercher et à pratiquer le bien autour de nous. Donne-nous de la grâce de comprendre là où tu nous appelles à faire cela. Dans nos circonstances respectives, là où nous avons besoin encore de renouveler nos forces, de ne pas relâcher nos efforts, de semer pour la vie éternelle. Que tu sois donc avec nous et parmi nous par ton esprit, et cela pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, il est midi.